La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, le philosophe dans la cité, Jacques Maritain, répond à son temps. Le philosophe dans la cité, c'est le titre d'une œuvre de Jacques Maritain qui vient rassembler plusieurs articles, d'une confession de foi même, un extrait de ce qui sera l'impossible antisémitisme, publication de 1938. Et je voudrais vous proposer de suivre justement une des contributions de Jacques Maritain pour ce volume. Il s'agit de l'impact de l'empirisme sur la culture. C'est un article écrit en 1951, donc après l'ambassade, bien après l'ambassade romaine, 1945-1948, et qui pose une question qui est toujours d'actualité, on va dire, parce que l'empirisme renvoie donc à l'expérience et s'oppose à tout ce qui est conceptuel, tout ce qui est théorique, tout ce qui est abstraction, comme si la seule expérience était habilité à dire le vrai du faux, c'est-à-dire on va glisser de la notion de vrai à celle de vérité. Alors cet article se divise en plusieurs sous-parties, très bien construites par Jacques Maritain, et je vais essayer dans le temps de cette émission d'aller jusqu'à la sixième partie intitulée « Nécessité d'une croyance collective aux valeurs morales ». Donc on part du grand 1, conception philosophique de l'empirisme, définition, et on aboutit à un petit 6 ou grand 6, nécessité d'une croyance collective aux valeurs morales. En une émission, on va essayer de voir ce en quoi cet écrit pourrait nous être utile aujourd'hui. La question que se pose Maritain, c'est la conception de l'empirisme, son succès, et son antithèse finalement avec le thomisme, c'est-à-dire avec une philosophie réaliste. Maritain pose dès la première ligne l'enjeu. J'étudierai dans ces pages l'impact de l'empirisme sur la culture. Je suis moi-même aristotélicien. Mon point de vue sera non pas simplement historique, mais aussi philosophique, je veux dire non pas neutre, comme pourrait le suggérer l'histoire, mais critique. Donc pour lui, être philosophe, c'est avoir un point de vue critique. Qu'entendre par critique? Ce n'est pas chercher des formes a priori de connaissance, à quelles conditions la connaissance peut-elle être possible. Ça, c'est la posture, on va dire, kantienne, qui peut être déjà proposée par Descartes. Hein, à quelles conditions je peux savoir quelque chose? Je mets tout en doute et je vais induire du fait que je pense, cogito, ergo sum, l'existence. Non, ce n'est pas cette posture-là. La critique, c'est le retour réflexe. Je pense, je progresse, je m'arrête et je vois à partir de ce contenu-là ce que je peux en dire. Pour Maritain, ce retour critique, ce retour réflexe définit la critique, on va dire dans une démarche qu'il hérite de Aristote, qui prend par exemple au début de la métaphysique le point de vue des présocratiques sur l'explication de la physique par les éléments, par le feu, par l'eau. Et puis, il voit là où il y a un problème. Il dit non, là c'est pas résolu, là ça l'est pas non plus. Je vais proposer une hypothèse et pas à pas, je ferai le point sur ma proposition. Voilà comment définir la critique. Que signifie l'empirisme ? Maritain répond, en tant que disposition psychologique, il signifie une tendance à insister sur la valeur de l'expérience et à se défier de la raison abstraite. Mais c'est comme conception philosophique, non comme attitude psychologique, que j'entreprends de l'examiner. Comme conception philosophique, l'empirisme signifie une doctrine, suivant laquelle il n'y a pas de distinction de nature, mais seulement de degré, entre le sens et l'intelligence. Il s'ensuit que la connaissance humaine n'est qu'une connaissance sensible, ou une connaissance animale, plus évoluée et plus élaborée que celle des autres animaux. La connaissance humaine n'est pas seulement tout entière circonscrite et délimitée par l'expérience sensible, mais, pour se déployer et s'accomplir dans la sphère de l'expérience sensible, elle n'a pas besoin d'énergie et de ressources spécifiquement différentes de celles qui entrent en jeu dans la connaissance sensible. Vous voyez, ce débat posé en 1951 est d'actualité brûlante. On pense à cette abolition de frontières entre le monde animal et l'homme. L'animal aurait-il une conscience ? Oui, bien sûr. L'animal aurait-il la conscience de la mort ? Oui, regardez les éléphants qui viennent se recueillir là où il y a des cadavres. L'animal aurait-il une intelligence ? Oui. L'animal qui est hermaphrodite n'est-il pas le symbole de l'homme ? Mais oui, on a beaucoup d'hermaphrodisme chez les hommes, etc., etc. Dans toutes les tendances, on essaie d'abolir la distance entre l'homme et l'animal. Et ici, Maritain va s'arrêter sur ce rapprochement à propos de l'intelligence. Y a-t-il simplement un degré qui fait passer des sens à l'intelligence ? Dans ce cas-là, ce qui va être mis en cause, c'est la capacité à faire des images, c'est-à-dire à faire du concept. Parce que dans la tradition réaliste, il y a trois niveaux. L'information donnée par les sens, cette information est traitée par l'imagination comme faculté interne, et dans cette capacité de faire des images, il y a ensuite la possibilité d'une abstraction. Je ne reviens pas sur l'épistémologie, ce n'est pas le propos aujourd'hui. Je rappelle que le sujet connaît en devenant l'objet connu, le sujet connaissance par intention devient l'objet connu. Et c'est donc un saut qualitatif entre l'essence et l'intelligence, saut qui permet de faire la spécificité de l'homme. C'est-à-dire un être doué d'abstraction, de possibilité d'abstraire. Donc ce curseur qui passe par une progression non tangible d'essence à l'intelligence et du rapprochement entre l'homme et l'animal, c'est la définition de l'empirisme que rejette Maritain. Petit 2. Quelle est la signification historique et culturelle de l'empirisme ? Si l'on considère d'un point de vue historique la signification culturelle de l'empirisme, on fera remarquer que l'empirisme, en tant que disposition psychologique, est une des tendances éternelles de l'esprit humain. Il s'est développé en doctrine philosophique et a commencé à devenir prépondérant comme doctrine philosophique à partir du XVIIe siècle, surtout en Angleterre, pendant qu'à la même époque, le rationalisme se développait et devenait prépondérant en France. Donc, très particulier de cette philosophie, d'avoir exercé son pouvoir de critique et de négation dans le champ intellectuel, avec d'autant plus d'énergie, de bonne conscience, de sécurité, que ce pouvoir s'attaquait dans le champ culturel à un arrière-fond de structure de civilisation, considéré inconsciemment comme durable et indestructible, et dans lesquelles les valeurs héritées de l'humanisme classique et de la vieille chrétienté, bien que plus ou moins mises en danger, étaient en fait toujours conservées, toujours vivantes, voire, dans le domaine pratique et effectif, toujours chères aux philosophies empiristes eux-mêmes. Donc ici, l'empirisme en tant que philosophie va s'appuyer sur un empirisme, on va dire, de culture, de background humain, qui est une sorte de réflexe pour finalement remettre en question un héritage humaniste et chrétien. Je passe tout de suite au petit 3, le contenu logique de l'empirisme. Donc là, on a vu un peu sa mécanique au plan historique et culturel. Pour l'empirisme, reprenons, il n'y a pas de différence essentielle entre l'intelligence et le sens. Le fait qui oblige une correcte théorie de la connaissance à reconnaître cette différence essentielle est simplement ignoré. Ce fait, quel est-il ? C'est le fait que l'intelligence humaine saisit, tout d'abord d'une manière très indéterminée, puis de plus en plus distinctement, certains ensembles de traits intelligibles, à savoir des natures, par exemple la nature humaine, qui dans la réalité existent comme identité avec les individus, avec Pierre ou Jean par exemple, mais qui sont universels, positivement un dans l'esprit et commun à une infinité de choses singulières. En associant des images et des souvenirs particuliers, un chien réagit d'une manière semblable aux impressions particulières semblables que ses yeux ou son nez reçoivent de cette chose que nous appelons un morceau de sucre ou que nous appelons un intrus. Il ne connaît pas ce que c'est que le sucre ou ce qu'est un intrus. Il exerce alors ses fonctions affectives et motrices, ou plutôt il est mis en mouvement, par les similitudes qui existent entre les choses de même espèce. Mais il ne voit pas la similitude, les traits communs comme tels. Ce qui lui fait défaut, c'est l'éclair de l'intelligibilité. Il n'a pas d'oreille pour la signification intelligible. Il n'a pas l'idée ou le concept des choses qu'il connaît, à savoir des choses dont il reçoit des impressions sensibles. Sa connaissance demeure immergée dans la subjectivité de ses propres sensations, et c'est en l'homme seulement et en lui seul, avec l'idée universelle, que la connaissance aboutit à l'objectivité. Le champ de la connaissance animale est strictement limité, c'est l'idée universelle qui libère en l'homme l'infinité potentielle de la connaissance. On le voit, ce saut entre l'animal et l'homme préserve la capacité de conceptualiser à l'infini et d'une certaine manière une liberté. L'animal est enfermé dans un conditionnement subjectif, réflexe. Ce sont des réflexes qui feront que l'intrus, le chien, un étranger, etc., générera les aboiements ou la fuite de l'animal. Mais il n'y a pas conscience de la véritable cause, de la véritable raison. Et cette raison s'articule sur une connaissance de la nature. Est-ce que cet intrus est un homme? Est-ce que cet intrus est un éléphant, une girafe? Je peux distinguer et ne pas avoir la même réaction réflexe. Cette importance est de taille. Conséquence. Premièrement, théorie nominaliste de l'idée, qui est destructrice de ce que l'idée est en réalité. Deuxièmement, notion sensualiste de l'intelligence, destructrice de l'activité essentielle de l'intelligence. Selon la conception empiriste, on pourrait résumer « l'intelligence ne voit pas ». Car le seul objet ou contenu vu dans la connaissance est l'objet du sens. Selon la conception empiriste, premièrement, l'intelligence ne voit pas dans sa fonction idéative. Il n'y a pas tiré des sens par l'activité de l'intelligence elle-même de nature universelle intelligible, supra-singulière ou supra-sensible, vue par l'intelligence dans et par les concepts qu'elle engendre en illuminant les images. Et deuxièmement, l'intelligence ne voit pas dans sa fonction judicative, c'est-à-dire de poser un jugement. Il n'y a pas, saisi intuitivement, de principes intelligibles universels, par exemple le principe d'identité ou le principe de causalité, dans lesquels la connexion nécessaire entre deux concepts est vue immédiatement par l'intellect. En conclusion, l'intelligence ne voit pas dans sa fonction raisonnante. Il n'y a pas dans le raisonnement transfert de lumière ou d'intuition. Il n'y a pas au processus logique essentiellement suprasensible qui fait que l'intellect voit la vérité de la conclusion en vertu de ce qui est vu dans les prémices. Tout se réduit dans les mécanismes passifs de l'intelligence à un processus aveugle de triage, d'épuration des images, des associations sensibles, des prévisions coutumières sous la direction de préoccupations et d'intérêts affectifs ou pratiques. Donc vous le comprenez bien, dégradation de la fonction intellective, Maritain l'a très bien distingué, vous pouvez réécouter l'émission si c'est trop complexe, et nous nous retrouvons après la pause musicale. après cette magnifique pastorale pour orgue de Jean-Sébastien Bach, pastorale qui unit donc l'animal et l'homme, le berger et son troupeau, nous pouvons revenir à cette différence entre l'animal et l'homme, analysée à partir de l'empirisme en 1951 dans Le philosophe dans la cité. C'est le cinquième chapitre de cet ouvrage de Jacques Maritain. Donc Maritain conclut sur, rien d'étonnant à ce que dans le vocabulaire empiriste, des mots comme évidence, intelligence, esprit humain, raison, pensée, vérité, qu'on ne peut s'empêcher d'employer, aient atteint un degré d'insignifiance. Qu'est-ce qui est derrière ? Rien du tout. D'imprécision, de confusion, qui fait que les philosophes en usent, comme par une sorte de concession non philosophique au langage humain courant, et avec un certain sentiment secret de culpabilité. Donc l'homme ne sera capable que de ce qu'un animal en qui la connaissance sensible a atteint son plus haut développement serait capable. Mais en fait, ce même animal, à savoir le philosophe empiriste lui-même, se sert d'une intelligence supra-animale et d'idées universelles supra-animales sans en convenir. Quatrième point. Les conséquences théoriques de l'empirisme. L'habileté de Maritain pour ce chapitre, ça va être de commencer en donnant la parole à un spécialiste des animaux. Monsieur Mourot Fox, professeur de zoologie au collège Bedford à Londres. Que constate-t-il ? Il note que la principale différence entre le langage sonore des animaux et le langage humain est que, tandis que les cris et les mouvements d'un animal expriment ses sensations et peuvent communiquer des sensations et des intentions à ses compagnons, nous faisons, nous, bien davantage. Nous avons des mots et nous rassemblons ces mots en phrases. Chez les animaux, il n'en va naturellement pas ainsi. Si j'enlève une banane à un chimpanzé, il peut montrer qu'il est irrité. S'il désire une banane, il peut montrer qu'il a faim. S'il reçoit une banane, il peut montrer qu'il est content. Ses mouvements et son expression indiquent qu'il est irrité, affamé, content. Même s'ils sont faits à son insu, ses mouvements. Mais le chimpanzé ne peut rien dire d'une banane. L'animal n'a pas de conversation. Conclusion de M. Mourot Fox. Les conséquences que Maritain tire, mais la première, les animaux n'ont pas de science, les animaux n'ont pas de philosophie, et donc, quand les philosophes empiristes s'intéressent à la religion ou à d'autres notions supra-animales, ils vont préférer le mot d'expérience religieuse. Cela est incompatible avec la doctrine. Pourquoi ? Parce que dans expérience religieuse, ce n'est pas une expérience de sensation. C'est une expérience de foi, avec un credo, avec une énonciation de la foi, ce qu'on appelle une confession de la foi. Et donc, des mots. Et donc, c'est une sorte de mixte, comme disait Maritain, de notions vides, hein, une notion imprécise, insignifiante ou confuse. C'était la fin du petit paragraphe 3, qui fait qu'on a un no man's land. Et conceptuel et intelligible, qui est d'une telle imprécision qu'on a l'impression que c'est une idéologie. Disons le mot, Maritain ne le propose pas, je vous le propose en commentaire. Nous sommes plus de 75 ans après ce texte, et donc on peut aussi commenter ce texte de Maritain. Conséquences pratiques de l'empirisme, c'est le cinquième paragraphe proposé par Maritain. Maritain propose trois titres suivants. La complète relativisation des valeurs morales. Un rétrécissement de la pensée pourvu d'une haute efficacité. Et enfin, le désarmement de la liberté. Je constate que sur ces trois conséquences, deux concernent le plan pratique. La morale et la liberté. Et au centre, la pensée pourvue d'une haute efficacité, c'est-à-dire un rétrécissement de la pensée qui cherche l'efficacité, c'est-à-dire l'homo faber et pas l'homo sapiens. L'homo sapiens vient après l'homo faber et c'est tout souvent une ligne de crête chez Maritain pour défendre l'homo sapiens, c'est-à-dire celui qui peut contempler. N'oublions pas que la fin de l'éthique à Nicomaque, hein, le livre 10, s'ouvre sur une contemplation, la théoria certes des idées, la contemplation d'un savoir qui reste à définir. Bien sûr, Aristote revient ensuite à la cité, à une application dans la polis, à partir de l'amitié. Mais cette contemplation reste celle de l'homme qui vit sa vraie vie au plan intellectif et non pas dans la vie quotidienne. Alors la complète relativisation des valeurs morales. On n'a plus affaire qu'à des valeurs relativisées ou subjectivisées concernant des comportements acceptés par le groupe social en un certain lieu, à une certaine époque, et qui sont des données d'observation pour le psychologue, l'ethnologue, le sociologue, mais qui échappent en elles-mêmes à toute justification rationnelle et demeurent hors du champ de la vérité et de l'erreur, à la manière d'une explosion émotionnelle ou d'une préférence nationale pour le bœuf, le borsch ou les spaghettis. Toujours cet humour de Maritain qui montre qu'on va rester dans des sciences humaines, c'est-à-dire dans un relativisme qui ne peut plus se fonder sur un concept universel. Il n'y a donc pas de place dans la visée empiriste pour la notion du bien commun, que je viens de rappeler dans la définition de la cité selon Aristote, qui se réfère à un objet intelligible, suprasensible et suprasingulier, à un bien qui transcende l'utilité et qui n'est pas la somme totale des biens particuliers des individus, mais le bien du tout social lui-même en tant que commun au tout et à ses parties et reversé sur les personnes individuelles, car la personne comme telle est un tout, en sorte que la société humaine est un tout fait de tout. Deuxième conséquence, la répercussion de l'empirisme sur le fonctionnement même de la raison moderne. C'est un phénomène historique significatif, l'avènement d'une manière de concevoir qui n'était pas nouvelle en elle-même, mais qui était nouvelle en tant que type de pensée envahissant tout, contrôlant tout, et qui caractérise à la fois l'homme moderne et la décadence de l'humanisme occidental. Ce phénomène peut être défini comme un rétrécissement de la pensée pourvue d'une haute efficacité. La tragédie des grands philosophes empiristes, conclut Maritain, venait du fait qu'ils ne niaient pas seulement les premières intuitions intellectuelles, dont dépend le savoir métaphysique, mais qu'ils manquaient réellement de ces intuitions. Ils ne voyaient pas par le pouvoir de vision spéciale à l'intellect. Quand il était question de l'horizon supra-empirique de l'être et de l'essence se manifestant au niveau de l'intelligibilité métaphysique, et ils ne savaient pas qu'ils voyaient par le pouvoir de vision spéciale à l'intellect, quand il était question de traiter scientifiquement du monde de l'expérience. Ainsi, il s'efforçait véritablement, de la manière la plus sincère, de construire un système assez vaste pour rendre compte de toutes les richesses humaines inhérentes à la culture occidentale. L'homme moderne, hélas, ne sent même plus cette tragédie. Ignorant de sa propre activité intellectuelle, sans laquelle il ne peut rien faire, mais qu'il a refoulé dans son inconscient, il se satisfait d'un comportement mental où la raison humaine se limite elle-même à explorer et à pénétrer de la plus habile et de la plus intelligente manière le domaine animal de l'expérience sensible. L'intelligence moderne est plus occupée à produire des images et des signes qu'à écouter ce que les choses sont intrinsèquement. Troisième point, c'est le désarmement de la liberté. Notre culture occidentale nous offre aujourd'hui un spectacle étonnant. Le spectacle de la démocratie, régime politique, qui consiste essentiellement dans une rationalisation morale de la vie politique, mais qui est aux prises dans la réalité avec une forme de pensée nominaliste qui ne s'intéresse qu'aux mensurations physiques, et le spectacle d'une civilisation qui vit sur des présupposés spirituels comme la dignité de la personne humaine, les droits de l'homme, l'égalité humaine, la liberté, la justice, la loi, l'amour fraternel, mais dans laquelle la raison humaine devenue empiriste n'a pas les moyens d'établir la valeur objective de ses présupposés. Elle a répudié toute vérité inconditionnelle et toute valeur absolue et demande « Qu'est-ce que la personne humaine ? Et qu'est-ce que la dignité ? Qu'est-ce que ses droits inaliénables ? Qu'est-ce qu'une égalité essentielle ? Qu'est-ce que la liberté, la justice, l'amour ? » Comme Pilate demandait « Qu'est-ce que la vérité ? » C'est une grande pitié qu'une civilisation soit devenue incapable de justifier en raison ce qui est sa seule raison d'exister et que les hommes soient devenus incapables de croire à la vérité intrinsèque des choses mêmes pour l'amour desquelles on leur demande, quand il est nécessaire, de donner leur propre vie. Donc, le sixième point, c'est la conclusion. Il est donc nécessaire d'une croyance collective aux valeurs morales. Nous le développerons la semaine prochaine.